Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit cette semaine spéciale consacrée au présent, à notre compréhension de ce qui nous arrive, par une réflexion que je mènerai en compagnie de Michael Fessel. Et l'on se demandera ce que devient l'idée de liberté aujourd'hui. N'est-elle pas sérieusement concurrencée par une autre idée centrale, celle de vie ? N'est-elle pas aussi menacée par une nouvelle conception de la liberté, celle des libertariens ? Ou mieux, celle du soi numérique, c'est-à-dire celle d'un sujet sculpté par ses usages numériques. Et nous allons pour cela partir d'un paradoxe central, celui du modèle libéral-autoritaire, travaillé par Michael Fessel dans un ouvrage intitulé « État de vigilance critique de la banalité sécuritaire » qui a été republié au point Seuil, en poche donc, et qui a publié entre-temps « Les aventures de la liberté » chez PUF. Alors, Michael Fessel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce paradoxe, pourtant central, qu'un pays peut à la fois être libéral et en même temps se montrer autoritaire, et on pourrait même dynamiser un peu la formule. Plus il est libéral par certains côtés, plus il se montre sécuritaire.
Effectivement, c'est un paradoxe, vous l'avez dit dans votre introduction, qui est une formulation libérale-autoritaire pour tenter d'approcher le présent, évidemment, avec tous les risques que comporte ce genre de diagnostic en temps réel. Mais il me semble qu'en effet, le rapport entre libéralisme et liberté, finalement, est plus compliqué qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés, je parle ici des démocraties occidentales essentiellement, qui mettent en avant une forme de liberté fondamentale, qui est la liberté d'entreprendre, la liberté économique, celle qui s'est individualisée dans les comportements, y compris numériques, vous en parliez, de l'individu, mais qui produit, ou en tout cas qui est liée, il me semble qu'elle produit, généralement on considère que ce sont deux phénomènes parallèles, avec une remise en cause de plus en plus marquée des libertés publiques, libertés politiques, et aussi avec la mise en œuvre de toute une série de procédures, états d'exception, vidéosurveillance, qui remettent en cause, disons, nos mouvements, nos faits et gestes.
La liberté se privatise en quelque sorte, Michael Fessel.
Elle se privatise, elle devient de moins en moins une dimension politique de l'expérience, puisqu'on sait très bien que nous sommes dans des, enfin en tout cas on nous dit suffisamment que nous sommes dans des sociétés dites post-politique, c'est-à-dire dans lesquelles l'idéologie ne constitue plus collectivement un élément central de nos expériences. Autrement dit, la liberté devient l'objet d'un usage individuel. Et ce qui me paraît préoccupant, c'est que cette promotion individuelle de la liberté n'exclut pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des législations ou des formes de normativité de plus en plus autoritaires. Donc la logique, enfin le problème, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure finalement cette individualisation de la liberté, bien loin d'être un rempart contre un certain nombre d'atteintes aux droits fondamentaux, peut d'une certaine manière les faire passer en quelque sorte comme des passagers clandestins.
Alors post-politique, vous disiez à l'instant Michael Fessel, mais on pourrait aussi dire, vous le dites d'ailleurs, que la liberté est liée à une utopie. Il n'y a pas de liberté sans une utopie de la liberté, c'est-à-dire sans une promesse de liberté aussi pour les autres, dans le sens partage de l'égalité, et pour nous autres Français d'ailleurs d'une égalité qui est promise à l'humanité tout entière. Donc dans cette nouvelle conception de la liberté, il y aurait une dimension post-utopique, dites-vous.
Oui, parce que en un sens, il y a deux manières. D'abord, enfin il y en a plus, mais pour ce qui nous concerne politiquement, je dirais il y a deux manières fondamentales d'aborder la liberté pour ceux qui la valorisent. Soit on l'aborde comme un fait, comme une donnée, comme un élément qui est en quelque sorte consubstantiel à l'individu. Au fond, l'individu est doué d'une capacité de liberté qui, par exemple, sur un marché, c'est la définition du libéral de liberté, qui peut s'exprimer sur un marché par le calcul en termes de coûts et de bénéfices, le choix libre d'investir ou de ne pas investir, de choisir sa vie. Bon. Dans ce cas-là, la liberté est d'une certaine manière si peu utopique quel est ce qui constitue le réel.
Elle est même nécessaire pour que le marché soit efficace.
Et paradoxalement, elle devient nécessaire en ce sens qu'elle est en quelque sorte le moteur du marché, ce qui fait lien social, encore une fois, comme liberté essentiellement économique. Et puis, alors, la conception de la liberté un peu alternative à celle-là, et celle dont je me sens le plus proche, c'est celle qui insiste non pas tant sur la liberté comme donnée, mais sur la libération, c'est-à-dire sur la liberté comme processus, le mot n'est pas très bon, disons en tout cas comme dynamique, qui part de servitudes réelles, y compris les servitudes qui sont justement liées à la situation économique, aux contraintes économiques, pour exiger, alors je ne sais pas s'il faut dire utopiquement, mais de manière, au meilleur sens du terme, idéaliste, libération par rapport à des contraintes, qu'elles soient d'ordre familial, qu'elles soient d'ordre social.
C'est le programme des Lumières que vous décrivez là, Michel Fessel.
C'est le programme des Lumières dans sa dimension plutôt rousseauiste, je dirais, que dans sa dimension peut-être voltairienne, c'est-à-dire en réalité, c'est la première phrase du contrat social, l'homme est né libre. Et partout il est dans les fers, c'est-à-dire ce paradoxe initial hein, que d'autres avaient auparavant comme la Boétie envisagée comme servitude volontaire, ce paradoxe initial qui veut que ce qui définit l'homme en même temps est absent de l'expérience. Ce qui définit l'homme c'est sa liberté, mais évidemment nous sommes dans des sociétés, enfin évidemment pour Rousseau, dans des sociétés de servitude. Et alors évidemment la conséquence c'est que, et c'est là le point de clivage avec le libéralisme, ou en tout cas surtout le néolibéralisme, c'est que du coup la liberté devient fondamentalement politique.
En un mot, Michael Fessel, cette différence entre le libéralisme et le néolibéralisme, parce qu'il y a une différence de fond, quand même. Il y a une différence quantitative, c'est pas uniquement un ultra-libéralisme à vous lire.
Non, ce n'est pas une différence simplement, disons, dans le degré de libéralisme ou dans le degré de liberté. Alors, en un mot, c'est difficile, mais disons que le libéralisme classique, bon, celui qui va de Locke à Montesquieu, disons, et puis jusqu'à Benjamin Constant ou Tocqueville, bon, est un libéralisme fondé, ou une doctrine, pardon, fondée sur l'idée que l'individu est sa caractéristique centrale, c'est sa liberté et ses droits fondamentaux. Et par conséquent, il faut, en particulier d'ailleurs, se préserver, c'est toute la thématique de Montesquieu, il faut le préserver des atteintes que l'État peut constituer à l'égard de ses droits. Le néolibéralisme est une invention plus contemporaine, si je puis dire, qui est d'ailleurs multiple dans ses variantes, mais qui a cette différence central avec le libéralisme classique, que le néolibéralisme est accordé à une définition de la liberté qui est censée pouvoir contenir toutes les autres en quelque sorte, c'est la liberté économique. Et la problématique du droit en particulier ici, elle est, je dis pas occultée, mais subordonnée en réalité au calcul d'intérêt et à cette thèse au fond qui est la thèse centrale du néolibéralisme, à savoir que ce qui fait société, ce n'est pas tellement le contrat au sens contrat social des libéraux. Ce qui fait société, fondamentalement, c'est le marché, c'est-à-dire le rapport des échanges. Et de ce point de vue-là, le néolibéralisme n'est pas un libéralisme outré. Le néolibéralisme est une conception de l'homme, une anthropologie en réalité, qui sur bien des points se distingue de celle, disons, plus classique des libéraux qui ont pensé les déclarations des droits de l'homme.
Michael Fessel, alors, les libéraux pensent, et c'est pour moi et pour vous d'ailleurs, parce que je l'ai lu sous votre plume, dans le modèle du libéralisme classique, il y a un moment d'obéissance. Le sujet est autonome, il doit obéir à la loi qu'il a contribué à former, mais qui n'est pas forcément l'expression de sa volonté ou de son désir. Et il y a un rapport d'obéissance, un rapport qui peut être brutal, et on voit bien ce que l'émancipation, la libération peut vouloir dire. Et alors, avec le néolibéralisme et avec les États que nous connaissons, c'est là où je voulais en venir, il se passe un phénomène qui est plus surprenant, qui est plus perturbant aussi, c'est un pouvoir qui s'appuie sur la complicité passive de ses sujets. Il n'y a plus dans ce modèle libéral autoritaire, il est sécuritaire, mais on ne voit pas d'ailleurs en quoi il est tellement autoritaire, vu qu'il ne se distingue pas du désir des sujets, qui est un désir de sécurité.
C'est là effectivement où il faut introduire ce qui, à mes yeux du moins, constitue un rapport d'implication entre cette liberté néolibérale, cette liberté essentiellement économique, et puis le désir de sécurité. La question qui se pose dans nos États, c'est de savoir ce que l'on peut encore bien attendre du politique. Et dès lors que...
Si ce n'est une attitude négative qui nous laisse tranquille.
Voilà, si ce n'est finalement cette indépendance qui est celle de la non-intervention dans le domaine du marché. Mais comme le marché ne constitue, malgré toutes les tentatives, alors pour le coup un peu utopiques, qui sont allées dans ce sens, libertariennes, le marché ne constitue pas le tout de la société. Comme il y a dans la société, en particulier, des violences, du tragique, le terrorisme l'a rappelé récemment pour ce qui nous concerne, alors évidemment, l'État qui n'intervient plus dans la sphère, ou qui intervient le moins possible dans la sphère concurrentielle dite rationnelle, investit, et parfois surinvestit, dans le domaine qui reste, c'est-à-dire le domaine des rapports entre les sujets. Et c'est là que la demande sécuritaire, évidemment, s'accorde à un désir qui est inévitable dès lors que nous sommes dans des sociétés du risque, comme disait Ulrich Beck. Le risque, la promotion du risque est inséparable de la demande d'assurance. Et d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que j'avais essayé de montrer dans ce livre, d'une certaine manière il y a une implication, un lien très fort entre la valorisation du risque pour l'individu et parfois même le fait que l'individu porte sur lui-même tous les risques, et cette demande d'assurance qui tout naturellement se tourne vers l'État, et qui l'État y répond d'ailleurs en général de manière très généreuse en termes de législation sur le sécuritaire.
Michael Fessel, c'est un peu la dernière chose qui lui reste à l'État, dans la mesure où l'État n'est plus véritablement l'instituteur des rapports sociaux parce que la modernité a transformé la liberté de chacun une sorte de seconde nature, il n'arrive même plus à concevoir ce que serait un État qui se poserait comme instituteur de lui-même. Et l'État est tenté de se légitimer aussi par le service. On devient un État plateforme de service. On entend d'ailleurs cette expression, un État plateforme.
Oui, alors évidemment, si on en reste au face-à-face entre l'individu et l'État, ce qui est d'ailleurs, je dirais, le point nodal de la complicité, hein, j'emploie le terme de manière assez neutre, oui. De la complicité entre l'individualisme néolibéral et une sorte d'étatisme fort dans le régalien.
Neutre, mais c'est quand même un petit peu dérangeant pour beaucoup
de gens. C'est dérangeant, oui. Quand je dis c'est neutre, oui. Cela veut dire que je n'en fais pas quelque chose qui soit pénalement répréhensible, mais politiquement très, très, très discutable. C'est d'en rester, encore une fois, à cette idée qu'il n'y a rien entre l'individu et l'État. Sinon, précisément, la sphère du marché. Or, il y a tout de même une réalité qu'on tend peut-être un petit peu à oublier et qui a beaucoup à voir avec l'apprentissage de la liberté politique, c'est la société civile. L'idée des corps intermédiaires, l'idée que la politique s'élabore, la liberté s'élabore politiquement dans une sphère qui n'est ni celle de l'État, ni simplement celle des échanges entre les individus, mais dans l'ordre de ce qu'on a appelé depuis les Lumières la société civile, qui est faite d'organisations, d'associations,
d'institutions,
y compris d'ailleurs de partis politiques, pas seulement, je dirais, d'associations qui sont des ONG, enfin, tout ce qui fait au fond que le collectif ne se réduit pas précisément à cette espèce de figure biface, c'est-à-dire les échanges marchands et puis l'exigence sécuritaire.
C'est-à-dire que ce qui est important dans la société civile, c'est qu'elle va permettre une expérience de la liberté, non seulement une formation à la liberté, mais une expérience partagée de la liberté, comme dans un parti politique, et comme le moyen terme, mais comme une manière d'assurer une sécurité, une prévisibilité du comportement du pouvoir dans une liberté partagée.
La société civile, c'est aussi ce qui porte sur le pouvoir politique un regard réflexif, une critique potentielle. Et évidemment, de ce point de vue-là, il n'y a, à mon sens, pas de hasard à ce que les dérives autoritaires, ou les dérives sécuritaires, plus exactement, auxquelles nous assistons depuis une vingtaine d'années, ont lieu dans un moment où les médiations propres à la société civile, je pense en particulier à la presse, se sont largement affaiblies, renvoyant en quelque sorte l'individu à un face-à-face un peu angoissé avec l'État, parce que, évidemment, face aux violences qui ont lieu dans la société, alors la tentation est forte de s'adresser au Léviathan, c'est-à-dire à celui qui garantit la souveraineté et surtout la sécurité des individus.
Mais Michael Fessel, cette prégnance du thème de la sécurité va avoir des tournures spéciales et qui ne sont pas nécessairement ressenties. Je prends un exemple immédiatement, c'est les inculpations, les incriminations préemptives, c'est-à-dire des incriminations qui ont pour but d'empêcher qu'un événement ne survienne, ce qui est d'ailleurs un grand... un grand fantasme du néolibéralisme, c'est la grande idée du néolibéralisme, c'est qu'on va préempter. On ne fait plus de prévention par une instruction ou une prise de conscience de la population. On préempte quasi mécaniquement les événements.
Oui, le néolibéralisme, Michel Foucault cela l'avait bien montré, c'est une forme de rationalité. Il faut d'abord l'envisager, je dirais, d'un point de vue quasiment épistémologique. Gouvernementalité, mais qui met en œuvre ou qui s'appuie en tout cas sur une figure de la raison, qui est la raison calculatrice ou instrumentale, c'est-à-dire celle qui subordonne un certain nombre de moyens à un but qu'elle se fixe. Donc si le but, évidemment, c'est d'obtenir une société dans laquelle la délinquance baisse, hein, je dis les choses de manière un peu simple, dans ce cas-là, évidemment, la solution, d'ailleurs en apparence, parce qu'il faudrait regarder les choses, y compris du point de vue des normes de l'efficacité, mais en apparence, la solution consisterait à empêcher ceux qui potentiellement pourraient devenir délinquants ou terroristes. Hein. On pense quand même à la facilité avec laquelle un certain nombre d'hommes politiques envisagent aujourd'hui en France de mettre sous les verrous les fichiers. Quand on leur répond que, ma foi, il n'y a pas de titre d'incrimination pénale, ça n'apparaît pas si grave, parce que la dangerosité est devenue le principe à partir duquel, au fond, on tente de faire accroire aux citoyens qu'une société non seulement sans risque est possible, mais surtout que la présomption de culpabilité l'emporte sur la présomption d'innocence, mais présomption de culpabilité qui en fait est déduite d'un certain nombre de données ou de calculs.
Présomption d'innocuité, vous dites dans votre livre, c'est-à-dire la présomption qu'on est inoffensif.
Oui.
Dans le fond,
c'est ça qui disparaît.
Ben c'est ça qui disparaît. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs cet exemple des fichiers S. Moi, je le trouve intéressant parce que la réponse des policiers qui sont plutôt du côté sécuritaire, c'est de dire, mais non, ne touchez pas à cet instrument qui, pour nous, est un instrument de réflexion, de construction, de réseau, pour suivre des gens. C'est, en d'autres termes, c'est quelque chose qui, c'est un ingrédient de l'action politique et de l'action institutionnelle. Et là, on retombe sur un autre des travers actuels de notre conception de la liberté qui doit être assurée à tout prix. Et donc, il faut quelque chose d'immédiat et d'automatique.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un petit peu un effet là du problem solving appliqué à la politique sans aucune médiation.
Solutionnisme.
Le solutionnisme, c'est-à-dire que on le voit bien, il y a une espèce d'accord un petit peu diabolique entre l'immédiateté des sociétés numériques ou des sociétés de l'information, avec cette événementialité évidemment accélérée qu'elle nous présente, et puis à la mesure de cette événementialité constante, une demande de solution presque immédiate. C'est-à-dire qu'à chaque attentat ou à chaque, parfois même à chaque manifestation où il y a quelque violence, la question est de savoir comment faire pour le plus jamais ça, en quelque sorte, mais le plus jamais ça dans le mauvais sens du terme. Que ça ne puisse pas se reproduire. Et évidemment, le meilleur moyen que rien ne se reproduise, c'est d'en attenter aux libertés. Je citerai là justement Rousseau ou Kant. Le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est la paix des cimetières. Évidemment, dans un cimetière, il ne se passe plus rien, la liberté étant tout de même une puissance aussi d'instaurer une forme de désordre, qu'on le veuille ou non, dans l'ordre établi.
Well, they're building a gallows outside my cell. I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal. I got 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I sent for the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die. Got 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye. Got 18 minutes to go. Now Now here comes the preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. I got 12 more minutes to go. Now they're testing the trap and the chills my spine with 11 more minutes to go.
France Culture, and Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Michael Fessel, sur l'idée de liberté et ses contrariétés dans l'aventure démocratique contemporaine. Et Michael Fessel qui a choisi de nous faire écouter 25 Minutes to Go par Johnny Cash, que les auditeurs ont reconnu. Pourquoi ce choix, Michael Fessel?
Bien parce que votre émission, Antoine Garapon, porte sur le droit dans ses dimensions existentielles. Oui, et donc je me suis, enfin, existentielle et
très
pas seulement politique.
Très existentielle.
Bah, existentielle en l'occurrence, justement. Et je ne connais qu'une chanson qui me plaise, du moins, et qui porte d'une certaine manière sur le droit, puisque cette chanson de Johnny Cash raconte, en quelque sorte, enfin, c'est le condamné lui-même, qui fait le récit à la fois tragique et comique des 25 minutes qui lui restent à vivre avant d'être exécuté. Et ça, c'est une manière, indépendamment du fait que j'aime beaucoup Johnny Cash, c'est une manière de reposer la question de la peine, ici de la peine de mort, donc de la version apparemment la plus, enfin, pas apparemment, réellement la plus radicale du pouvoir pénal, ou à une époque où cette question, de manière parfois un peu étrange, insidieuse, revient de temps à autre.
Ah bah, notamment ces derniers temps.
Ces derniers temps, oui,
et
bien sûr.
Justement, ressurgir.
Même si ça n'est pas heureusement une attente apparemment massive de l'opinion, en tous les cas, il apparaît que ce n'est plus non plus ce que cela a pu être pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire un repoussoir absolu.
Mais ce qui est intéressant, pour faire lien avec ce que votre dernière phrase, vous parliez de la paix des cimetières. La paix des cimetières, on voit à quel point ce pacte entre le libéralisme, le néolibéralisme et la sécurité a quelque chose à voir avec la vie. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce choix musical, on y reviendra, c'est que c'est une vie qui, en l'occurrence, est dans une situation extrême parce qu'elle est adossée aux 25 dernières minutes. Donc, il y a peut-être quelque chose, ça nous dit quelque chose sur notre rapport au temps. Un temps qui est adossé à la catastrophe, qui est adossé à la mort, vécu comme étant une catastrophe annoncée. Bref, beaucoup de questions, Michael
Fessel. Beaucoup de questions, mais qui renvoient toutes, à titre ultime, je dirais, au sérieux de l'existence, c'est-à-dire justement à la question de la mort. Qui n'est pas du tout absente, évidemment, de la manière dont on pense le droit. Parce que si on prend la peine de mort, qui n'est pas un sujet que j'ai spécialement étudié, mais qui m'intéresse sur un point, qui est qu'on constate que les philosophes dont j'aurais, enfin intéressant pour moi, dont j'aurais spontanément le plus envie d'être proche, c'est-à-dire ceux qui font de la liberté le point central dans le fondement du politique, sont généralement des philosophes qui sont, et c'est d'une certaine manière logique, favorable à la peine de mort. C'est le cas de Rousseau, c'est le cas de Kant, c'est le cas de Hegel. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce qui caractérise l'homme, fondamentalement, c'est sa liberté, autrement dit. C'est même ce que dit Hegel explicitement, c'est rendre hommage au coupable que de le mettre à mort, c'est-à-dire sa liberté, c'est la
possibilité de le regrandir, de le reconnaître.
De le reconnaître, parce que Hegel, sa liberté va jusqu'à pouvoir vouloir un acte qui impliquera sa propre mort. Tandis que les philosophes qui sont les premiers, du moins, à s'opposer à la peine de mort, Beccaria, d'une certaine manière, ce sont les premiers néolibéraux. C'est-à-dire ceux qui pensent que leur argument est le suivant, pour si je prends Beccaria, c'est de dire, après tout, pourquoi est-ce que nous contractons? Pourquoi est-ce que nous faisons société? Pourquoi est-ce que nous faisons État? Pour survivre. Et par conséquent, il serait totalement contradictoire de mettre dans le contrat qui est destiné à nous faire survivre une clause qui permette à l'État de nous mettre à mort. Alors, la difficulté à laquelle, ce que montre cet exemple, c'est que premièrement, l'hyper-individualisme néolibéral, en tant qu'il est fondé sur une promotion de la vie, a quelque chose de séduisant. D'ailleurs, cette manière de penser, cette manière d'agir ne serait pas imposée si elle était simplement dans la tête de quelques élites mondialisées.
Et nous y souscrivons tous un peu à notre corps défendant, j'allais dire.
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a dans cette conception, cette promotion unilatérale de la vie pour la vie, en un sens, quelque chose qui d'abord nous débarrasse du tragique de l'histoire, donne une conception de la société qui est plutôt une conception en apparence du moins apaisée par rapport évidemment aux grands récits de la liberté ou de l'émancipation qui ont évidemment au XXe siècle fait la preuve.
Une dimension tragique, oui.
Qui ont une dimension tragique et qui ont fait la preuve souvent de leurs échecs. Alors pour en finir avec, si je puis dire, la peine de mort, la difficulté, à mon sens, c'est d'essayer de penser des arguments contre elle qui ne soient pas simplement des arguments de type vitaliste, c'est-à-dire, et ça je crois Paul Ricoeur là qui nous est cher à tous les deux, Antoine Garapon, est quelqu'un qui nous a aidé à penser cela, parce qu'au fond il a montré que la question était surtout de savoir d'une certaine manière ce que l'on tuait dans la peine de mort, et on ne tue pas seulement une vie en un sens, qui est déjà beaucoup, mais on met aussi un terme à une possibilité,
une capacité
de rachat, de transformation, donc au fond c'est aussi une liberté qu'on assassine,
si je puis dire. Et une capacité de rachat qui va bien au-delà de redressement d'un destin individuel, qui montre la possibilité même d'un changement, qui montre c'est l'acmé de la capacité, pour prendre des termes qui sont aussi à la mode, qui veut dire un peu la même chose, c'est-à-dire oui c'est possible. Oui, il est possible que le bien l'emporte, j'allais dire, pour des catégories.
Oui, c'est possible, et il est possible aussi que ce ne soit pas le cas. Au fond, c'est cette dualité qui est difficile à accepter d'un point de vue purement rationaliste, instrumental, tel qu'il est à l'œuvre souvent dans nos sociétés. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la dangerosité, évidemment, mettre sous les verrous, mettre hors d'état de nuire des individus en regard de leur dangerosité, c'est faire d'une part le pari qu'ils n'ont que de la dangerosité, c'est pas ça. De capacité. Et d'autre part, évidemment, et c'est là où ça peut être séduisant, c'est ce fantasme d'une société parfaitement prévisible et dans laquelle, au fond, rien n'advient, rien ne peut advenir. Mais le rien implique le mauvais, mais aussi le bon.
Bien sûr, parce que l'imprévisibilité, Michael Fessel, et vous insistez souvent là-dessus dans d'autres de vos ouvrages, elle est profondément liée au monde. Le monde est imprévisible, et c'est toute la réassurance que peut fournir la politique, c'est la force des citoyens réunis, c'est comment on agit ensemble dans un monde incertain pour nous garantir les uns aux autres la liberté.
Oui, ici, en tout cas sur cette dimension-là du monde comme imprévisibilité, je me réfère souvent à Hannah Arendt, c'est-à-dire à quelqu'un qui a pensé la liberté comme capacité politique, mais en rapport avec le monde, c'est-à-dire la capacité de commencer, au fond, oui. C'est ça qu'elle définit, oui. Ou c'est comme cela qu'elle décrit plutôt d'ailleurs, la liberté, la capacité d'introduire dans le monde du nouveau. Alors j'ai parfois essayé de construire, à tort ou à raison, une opposition entre monde et vie, parce que la vie, c'est précisément, et d'ailleurs là aussi ça serait une thématique d'Arendt, ce qui veut la vie. Hein. La vie ne veut que sa propre reproduction, en quelque sorte, sa propre perpétuation. Alors que le monde est un horizon dans lequel la nouveauté est non seulement possible, mais dans lequel elle a lieu comme événement.
Vous rapportez cette citation, je résiste au plaisir de la relire, d'Anna Arendt dans Qu'est-ce que la liberté ? Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu. Fin de citation.
Alors, évidemment, on pourrait penser que cette opposition entre monde et vie est soit abstraite, soit un peu spéculative. À mon avis, elle est tout à fait centrale. Elle a même une dimension aujourd'hui extrêmement préoccupante, qui est la place que la biologie, dans toutes ses dimensions, prend dans la politique. La vie, c'est évidemment une valeur en un sens, mais la vie a tendance, enfin ce qui est problématique, je dirais, c'est la réorganisation du champ politique autour de la vie. Le sécuritaire en est une dimension.
Oui, tout à fait. Et c'est tout le projet des sciences cognitives d'ailleurs, Michael Fessel, c'est de avoir une conception d'emblée systématique du monde, d'emblée organique du monde, voire mécanique. Et alors, c'est là où il faut parler d'un événement qui est majeur, bien sûr, c'est le numérique. Mais selon vous, le numérique doit être compris dans le prolongement de cette philosophie et non pas en rupture avec cette philosophie. Il exaspère en quelque sorte un monde qui se limite au désir de soi et qui prive d'une expérience directe du monde.
Le numérique, on pourrait penser évidemment en première approche que c'est l'artefact par excellence, c'est-à-dire ce qui nous sépare de la nature, voire de la vie. Mais on se rend compte très vite que le fantasme, en tout cas, qui est à l'horizon du numérique, mais ça n'est pas du tout nouveau, c'est de créer un artefact vivant. Hein. C'est le transhumanisme, c'est cette idée que finalement on peut constituer.
Parce que c'est quasiment la même chose. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. L'ordinateur est un cerveau.
C'est-à-dire qu'à la fin des fins, l'artefact est là pour, d'une certaine manière, réparer le vivant, si je puis dire, ou en tous les cas le porter à son point d'excellence, ce qui, encore une fois, est consubstantiel à une certaine dimension du projet du projet moderne. Mmh. On pourrait penser à Hobbes, après tout, le Léviathan, c'est l'artefact qui est censé être l'État, je veux dire, c'est la machine qui est destinée en quelque sorte à garantir la survie. Alors bon, je n'ai rien contre la vie, sinon que, mais là, ça c'est presque un débat, mais qui est à la frontière de la politique et de la métaphysique. Mmh. C'est que la vie, c'est l'immanence, c'est ce qui se veut soi-même, c'est-à-dire c'est ce qui, et ça pose des problèmes du point de vue du droit, parce que dans la vie, il n'y a pas de droit, il y a des normes. Oui, la vie est normée par sa propre reproduction, par le principe de conservation.
Bien sûr.
Et par sa nécessité. Tandis que le monde, c'est tout de même une figure de la transcendance. Je pense souvent à cet exemple, c'est une des dernières scènes de Shoah de Claude Lanzmann, où Jan Karski raconte, enfin essaie de raconter d'ailleurs ce qu'il voit dans le ghetto de Varsovie, l'horreur que cela lui inspire, puisqu'il est envoyé par le gouvernement polonais en exil pour voir pour témoigner surtout de ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie en 1942, et il ne trouve pas les mots, il finit par dire, enfin rétrospectivement dans le film, ce n'était pas un monde, voilà, c'était pas un monde, et cela montre tout de même qu'il y avait de la vie, si je puis dire. La vie continuait, enfin aussi difficilement que possible, dans ce ghetto. Mais ça n'était rien qui puisse être souhaitable et désirable.
C'est ça. Mais c'est-à-dire que la difficulté avec ce concept de vie, c'est qu'elle vide en quelque sorte le droit de son caractère juridique pour le transformer en une norme. Il y a un devenir norme du droit, parce que lorsque le référent ultime, c'est un référent vital, c'est le référent de la vie. Mais est-ce que tout ça ne nous conduit pas, Michael Fessel, à une sorte d'entropie démocratique qui serait la grande angoisse de notre présent ? C'est-à-dire l'accomplissement de la démocratie, le jusqu'au boutisme des présupposés de Hobbes et d'une partie de la philosophie libérale puis néolibérale, ne conduit-elle pas à évider la démocratie et l'idée même de liberté, pour reprendre une expression que je trouve extrêmement suggestive d'ailleurs que je dois à la lecture de votre livre, une dédémocratisation par la norme en quelque sorte.
Oui, dédémocratisation, c'est un concept qui à mon avis est effectivement pertinent, parce que il n'est pas aussi, enfin il est plus nuancé, je dirais, que post-démocratique, oui, ou même disons totalitaire, on employer des termes encore plus radicaux, parce que dédémocratisation, cela implique, ou cela suggère en tout cas, que c'est tout de même au nom de principes démocratiques retournés en quelque sorte contre eux-mêmes que l'on peut mettre atteinte ou porter atteinte, pardon, à la démocratie. Je crois que pour le dire vite, le néolibéralisme exploite une partie du libéralisme au détriment de l'autre, et la partie, c'est celle qui justement fait porter en général sur l'individu seul le poids de l'action l'action au détriment de tout ce qui, malgré tout, même dans le libéralisme classique, fait collectif, à commencer par le droit.
Oui, mais alors du coup, on assiste à une pulvérisation des individus, à un atomisme, à un néo-atomisme, on pourrait dire, numérique, qui fait que chacun est face à lui-même et croit être face aux autres à travers les réseaux sociaux et à travers un objet qui le prive de l'expérience du monde. C'est ça l'inquiétude que l'on peut éprouver et que l'on peut nourrir à l'égard du numérique, qui est un instrument extraordinaire, mais qui risque de prolonger et d'exaspérer cette dynamique qui réduit le monde à la vie et le droit à une norme.
Oui, parce que le monde, c'est cette, je disais tout à l'heure, cette transcendance qui reste, ou cette, mais tout de même, il y a une dimension sensible. Le monde, c'est ce qui fait l'expérience, généralement d'ailleurs collective, de notre appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Hein. C'est l'aspect transcendance, mais transcendance qui n'est pas simplement, qui n'est pas absolue, ou qui n'est pas nécessairement de religieuse. Bon, alors de ce point de vue-là, le numérique, dont il ne s'agit pas de faire le procès en tant que tel, mais est une puissance. Bon, ce n'est pas la première, là encore, dans l'histoire de la modernité, mais c'est clairement une puissance d'abstraction par rapport à cette expérience. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas absolument convaincu, du moins comme ça, in abstracto, de la pertinence des préconisations en termes de démocratie numérique. Bon, il me semble quand même que l'élément sensible de la démocratie, la confrontation réelle des paroles et des actions, est tout de même indissociable de l'expérience démocratique contemporaine, et que ce débat par la voie algorithmique, si je puis dire, que l'on résoudra les problèmes qui se posent à nous.
Michael Fessel, est-ce que dans la liberté rentre pas une partie, vous parliez du tragique, moi j'irais une partie de sacrifice, paradoxalement d'ailleurs, hein, parce qu'on va dire la liberté, ben non, c'est la liberté d'aller jusqu'au bout de soi-même, non, la liberté politique réclame une dimension de sacrifice.
En tout cas, ce qu'il y a de plus faible, je dirais, dans les conceptions néolibérales, c'est qu'elles sont fondamentalement antisacrificielles, c'est-à-dire qu'elles posent que c'est l'idée de la main invisible, hein, d'une certaine manière déjà, c'est-à-dire, ou la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que il y a cette espèce de fantasme d'une réussite collective qui se ferait par les inégalités, d'une certaine manière. Bon, alors évidemment le concept de sacrifice doit être manié avec prudence en politique, mais que la liberté ait à voir avec ce que Georges Bataille appelait la dépense improductive, et que d'ailleurs il pensait l'utilitarisme néolibéral, c'est-à-dire, et dont le sacrifice est un exemple, hein, c'est-à-dire on sacrifie quelque chose, c'est-à-dire on ne le consomme pas, hein, en quelque sorte, on ne l'utilise pas.
Mais c'est aussi la problématique du luxe.
Mais c'est aussi la problématique du luxe, et puis c'est la problématique, d'une certaine manière, de la liberté démocratique. Il n'y a rien de plus improductif que la délibération, la négociation.
Très improductif.
Et d'ailleurs, on ne cesse de lui reprocher, c'était vrai déjà dans les années 30, on ne cesse de reprocher à la démocratie d'être lente, improductive, c'est bien connu, les démocrates ne savent que discuter ou parloter, parlementer, c'est le cas de le dire. En réalité, non, il y a dans la démocratie elle-même quelque chose comme un pari d'improductivité, finalement, même si on peut démontrer, ça a été fait, Aristote
le disait
déjà.
C'est pas du tout à la mode,
ça. Oui, mais bien sûr, mais on peut montrer qu'on est plus raisonnable à plusieurs que tout seul.
Alors, il y a aussi un autre problème, Michael Fessel, que je vois, et qui a lien avec votre préoccupation du monde, c'est que l'individualisme exaspéré, comme celui du monde d'Internet, ou celui de l'agent économique qui fait des calculs rationnels, et dans le fond, que de plus en plus déterritorialisé, où qu'il soit, il peut toujours passer des ordres à sa banque, bon, et donc, prive d'un élément essentiel à la politique, c'est-à-dire nous prive de la capacité de créer des acteurs capables d'agir au niveau de l'histoire et à l'échelle du monde, et qui sont essentiels parce que c'est eux qui font l'histoire.
Je dirais que pour agir à l'échelle du monde, et même penser à cosmopolitisme qui ne soit pas simplement, disons, la version un petit peu raffinée de la mondialisation heureuse. Pour penser une citoyenneté cosmopolitique, le préalable, c'est d'avoir une expérience du monde. Moi, j'ai été très frappé dans certaines des grandes mégalopoles qu'on présente souvent comme les avant-postes de cette mondialisation. Je pense à Sao Paulo en particulier, qui est une ville gigantesque de 20 millions, je crois, d'habitants, où les plus riches ne se déplacent plus qu'en hélicoptère. C'est tout à fait pour aller d'un immeuble.
Ils ne rencontrent plus les autres.
Littéralement, ils ne les voient plus. Enfin, ils les survolent, on peut dire, littéral du terme. Alors, ce sont des êtres mondialisés, certainement, mais ils sont très loin de la citoyenneté cosmopolitique telle qu'on pourrait peut-être la penser, telle que Kant l'avait déjà pensée, qui suppose une expérience du monde. Et en particulier, c'est la phrase de Kant qui dit... Au XVIIIe siècle, nous vivons à une époque où une injustice commise en un lieu de la Terre est immédiatement perçue comme injustice en un autre lieu. C'est cette sensibilité... à l'injustice du monde qui aujourd'hui est mise à mal parce que nous savons que à bien des égards la Méditerranée, je me mets dans ce nous, hein, évidemment, la Méditerranée est un grand cimetière depuis quelques années, et que faisons-nous de savoir, ou plutôt ce savoir, comment expliquer qu'il ne fait plus pour la plupart d'entre nous sentiment, affect, indignation. Il y a là quelque chose de très troublant et qui probablement renvoie aussi à une question anthropologique fondamentale. C'est que ces réseaux qui nous informent, d'une certaine manière aussi, nous désensibilisent par rapport à ce que nous savons. Les sociétés de l'information sont des sociétés peut-être de l'émotion, mais certainement pas toujours de la sensibilité.
C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que cette mise en réseau qui fait qu'on peut communiquer sur un plan professionnel, par exemple, directement avec un collègue à Moscou, à Sao Paulo, à New York, à Shanghai, produit une sorte d'acosmisme, on pourrait dire. C'est un terme qui veut dire qu'on s'éloigne du monde, entendu encore une fois comme une expérience sensible et qui revient constamment sous votre sous votre plume et dans votre discours, Michael Fessel.
Ben, si on prend le monde comme un grand tout, duquel, au fond, dans lequel les distances seraient abolies par les moyens virtuels, alors on peut dire que nous n'avons jamais été aussi au monde qu'aujourd'hui. Mais en réalité, le monde, ce n'est pas l'univers ou ce n'est pas le global. Le monde, la meilleure approche qui en a été faite, au moins au point de vue politique, c'est là aussi Hannah Arendt, hein, c'est l'espace entre nous, hein, c'est l'intéressé. Il y a aussi le mot intérêt, mais pas au sens néolibéral, mais le fait d'être sollicité, convoqué par la figure des autres. C'est non donc pas le grand tout, c'est ce qui est entre les individus et qui précisément demande à être politisé ou institué. Donc le monde, ce n'est jamais un donné, ce n'est pas un réseau, c'est le résultat d'une institution, enfin quand il existe, c'est le résultat d'une institution politique, et ce n'est pas seulement par l'abolition des distances que l'on fait monde, si je puis dire, mais c'est par l'institutionnalisation des rapports qui se situent ou qui se constituent entre nous.
Si je vous entends bien, Michael Fessel, ça veut dire que pour vous, la mondialisation, c'est très, d'ailleurs un peu contre-intuitif, la mondialisation, je pense notamment au droit, et je pense à tout ce qui se développe aujourd'hui en termes de droit international pénal ou en termes de droit du commerce international. Et dans le fond, c'est la véritable réintroduction du monde dans le politique passe par une expérience personnelle, passe par une perception, par une sensibilité au monde dans lequel on vit. Et c'est moins une question d'échelle, de grandeur, qu'une question d'attention, on pourrait dire.
Oui, c'est pas du tout une question de grandeur. À ceci près qu'on ne fait pas monde tout seul. Bon, mais d'une certaine manière, on peut faire monde à deux. Bon, mais le monde, ça n'est pas
cosmisme. Il y a un cosmisme du couple.
Il y a un cosmisme du couple. C'est quand il oublie que quand même quand on est deux, on est trois. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui peut justement s'appeler le monde. Mais le monde, évidemment. Enfin, ce qui m'intéresse moi dans ce concept, c'est cette manière d'appréhender le réel. Finalement, c'est un titre pour le réel. On parlait de la vie tout à l'heure. Ben, l'un des concurrents de la vie, c'est, si je puis dire, c'est le monde. C'est pas que ça soit plus grand que, je sais pas moi, la nation, c'est pas que ça soit plus gros que le pays ou que la région, c'est que le monde, c'est à la fois du sensible et de l'idéal. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité...
Les deux étant indissociables.
C'est indissociable, c'est-à-dire c'est ce qui est à la fois... ce que l'on peut décrire, ce que l'on peut éprouver, ce que l'on peut, dont on éprouve souvent d'ailleurs l'absence, hein, ou la disparition prochaine, hein, je pense à toutes les problématiques apocalyptiques contemporaines. Donc on peut en éprouver l'absence, et en même temps c'est un titre pour l'universel, et c'est un titre pour l'universel qui me semble préférable à ceux qu'on nous présente aujourd'hui, que ce soit sur le modèle économique ou sur le modèle vitaliste.
Où on pourrait d'ailleurs réintroduire l'art comme une expérience de l'universel. Et une expérience sensible de l'universel dans l'immédiateté dans laquelle se dévoile l'œuvre d'art.
Oui, c'est-à-dire que c'est depuis l'expérience singulière et pas depuis une idée préconçue de cet universel, c'est depuis l'expérience singulière de la rencontre avec l'œuvre d'art qu'une prétention à l'universel peut s'élaborer.
Et ce sera ma dernière question, Michael Fessel. Comment refaire monde aujourd'hui dans notre univers dans lequel les tentations d'en échapper sont aussi nombreuses et aussi confortables?
Je ne saurais pas le dire évidemment de manière normative. Maintenant, évidemment, la tentation est forte d'essayer de refaire monde à l'abri des institutions ou hors institutions, et on le pense même au sens politique. Je ne parle pas, bon, vous l'avez évoqué, la tentation privatiste de la vie privée, mais aussi tout ce qui se développe autour des ZAD, des tentatives au fond de faire sécession avec le monde commun, et que je ne juge absolument pas. Je peux concevoir que l'état des institutions soit tellement déplorable que l'on choisisse cette voie-là. Il me semble néanmoins qu'en dernière instance, c'est le politique qui décide et qu'à abandonner cette volonté de faire monde dans ce champ-là, on risque d'être rattrapé par le réel politique. Donc comment, je ne sais pas, mais l'urgence malgré tout demeure d'essayer que ce monde, nous l'instituions plutôt que d'essayer de le retrouver en deçà de ce qui nous est commun.
Merci beaucoup, Michael Fessel.
Merci à vous.
Matière à penser, Michael Fessel, Colin Gruel, Bruno Mourlan, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain soir, nous terminerons cette semaine en compagnie de Patrick Boucheron qui recevra Fanny Taillandier.